Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent. Bienvenue à Terre de Femmes. Cette semaine, nous parlons d'un sujet très sensible, d'un sujet qui est à l'origine de bien des discussions familiales, mais aussi qui fait naître stress et anxiété au début de chaque mois. Je pense que vous avez deviné. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'argent. Donc, l'argent, le dernier des tabous. Et pour en parler, j'ai avec moi aujourd'hui Caroline Lalande, présidente de Mosaïque, cabinet de services financiers. Elle est aussi l'auteure du coffret de cartes pour améliorer ses finances personnelles, paru aux éditions de l'Homme. Elle est déjà venue à l'émission d'ailleurs. Mais tout de suite après la chanson, je m'entretiens avec Sylvie Lévesque, qui est directrice générale de la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec. À tout de suite.
J'étais sur mon chemin pour aller jouer dans le métro. Je me dis c'est une bonne journée pour payer le bill d'hydro. J'suis comme en retard sur le loyer. Puis ben, y'a pas grand chose dans le garde-manger. Le monsieur, l'agent, l'air un peu frais. Il me dit t'as-tu ton permis, ça c'est à tes frais. J'ai dit ben non, devine pourquoi j'suis là. Il me dit ça prend de l'argent, sinon tu t'en vas. T'es un peu trop pauvre pour avoir de l'argent. C'est tout le temps l'argent. J'ai dit, ah oh ouais, si c'est comme ça, m'en va faire le tour du Guatemala. Un petit voyage, ça me fera pas tort. Ça t'ouvre les esprits, ça te calme les efforts. J'arrive là-bas, je demande un coup de main. Y'a-tu moyen de travailler pour un peu de pain? Ils me disent, oh ouais, gringo, c'est toi qui es riche. Dans ton pays, tu sais que c'est pas mal plus chic. T'es pas assez pauvre pour avoir de l'argent. C'est tout le temps l'argent. C'est d'un matin d'aller porter des CV. M'a parlé aux gérants, ça sera pas compliqué. Un gars comme moi, ils vont bien m'engager. J'ai été bénévole et puis j'ai voyagé. Le bonhomme se pointe, il a l'air sévère. Il me scrute la tête au pied et qu'un air bête. Il me dit, ouais, t'as pas vraiment d'expérience. Moi, je me cherche quelqu'un qui a déjà eu sa chance. T'as pas assez travaillé pour avoir de l'argent. C'est tout le temps l'argent. J'ai dit, je vais tenter ma chance à l'université. Après tout, dans ma société, c'est bien accepté. M'en faire un bac, sortir avec une carrière. Tant que c'est pas trop plate que je check mes arrières. J'arrive au bureau des prêts et bourses. C'est pour une demande de paye, j'touille, j't'ai à cause. Ça me dit, ça prendrait un relevé de vos impôts. Mais j'ai comme l'impression que t'as fait une couple de piastres en trop. T'as bien trop travaillé pour avoir de l'argent. C'est tout le temps l'argent. J'ai enfin trouvé la meilleure solution. M'en va mettre sur le BS dans pas long. M'en y aller pour la solidarité. Tant qu'à être solidaire, j'suis aussi bien en profiter. La petite madame a l'air morose. Vous savez, c'est pas les petits frères des pauvres. Votre dossier me dit vous êtes allé à l'école. Nous autres, on n'accepte pas ça, les petites bolles. T'es bien trop éduqué pour avoir de l'argent. C'est tout le temps l'argent. La seule avenue qui me reste, m'en va me lancer dans le commerce. M'en vendre la drogue, m'en remonter la pente. Mais madame la reine n'était pas trop clémente. Ils m'ont passé les menottes. Puis j'ai dit ah, maudite crotte. Juste avant de réaliser que tous mes problèmes étaient réglés. J'suis logé pour l'hiver, j'suis bien content. Ici, c'est les cigarettes qui valent ton temps. M'en partir un racket ici dedans. Moi, être le boss des bécosses, ça va être dément. Puis enfin, avoir de l'argent. Puis enfin, avoir de l'argent. Puis enfin. Et la marche.
C'était Sam Harvey, l'argent. On ne peut pas être plus dans le sujet qu'on est là. Alors, on reçoit Madame Lévesque. Bonjour, Sylvie Lévesque. Vous
bonjour,
allez bien?
Bonjour. Oui, ça va, ça va. Alors, effectivement, une très belle chanson.
Ah ben oui, on va dire qu'elle est dans le ton, hein?
Oui, oui, exactement.
Alors, la Fédération existe depuis 1974. Et vous, ça fait combien d'années vous êtes directrice?
Ça fait plus de 15 ans, à peu près.
D'accord. Et donc, vous avez pu remarquer qu'au sein des familles monoparentales, En fait, les personnes qui étaient le plus en difficulté, c'était les femmes.
Oui, ben effectivement. Ben, il y a une évolution quand même depuis les 20 dernières années quand même concernant les familles monoparentales, mais il reste quand même que plus de 76% des familles monoparentales sont encore dirigées par des femmes. Donc, il y a aussi des pères monoparentales. Il y a quand même une évolution à ce niveau-là, mais il reste que c'est encore majoritairement féminin et plusieurs d'entre elles sont effectivement dans des situations de précarité. Elles ne sont pas toutes pauvres, mais en même temps, elles sont moins sur l'aide sociale qu'elles étaient, sont plus scolarisées, mais en même temps, c'est sûr qu'elles sont encore dans des situations de fragilité, en tout cas au niveau financier, c'est clair.
Mm-hmm. Et quels sont leurs plus grands défis présentement comparativement à avant?
Ben en fait le défi, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de gardes partagées, les séparations se font de plus en plus tôt, c'est-à-dire que avant on se mariait pour le meilleur et le pire, donc oui. On attendait plus longtemps avant de se séparer. Donc les mères se retrouvent souvent et les parents se retrouvent souvent avec des très jeunes enfants. Donc le défi évidemment, c'est évidemment économique parce qu'on sait qu'aujourd'hui le coût de la vie est de plus en plus quand même important. J'entendais justement ce matin que les épiceries, en tout cas toutes les l'alimentation va augmenter de façon importante. Donc, les défis, c'est de réussir finalement à se loger correctement, à nourrir ses enfants et avoir un emploi finalement qui nous permet de sortir de la pauvreté. Donc, ça, c'est encore le défi aujourd'hui parce que le coût de la vie est quand même de plus en plus important, là.
Oui, et les salaires ne suivent pas nécessairement.
Non, effectivement, il y a quand même un bon pourcentage. On sait qu'au niveau des, bon, je ne vais pas donner trop de chiffres là, parce qu'on sait que c'est pas toujours évident, mais il reste que c'est important de quand même signifier au Québec que la majorité des gens qui sont salariés sont sur la loi sur les normes du travail. Donc, les gens ne sont pas tous syndiqués et avec des bonnes conditions de travail et des bons salaires. Donc, et majoritairement là-dedans, ce sont les femmes qui se retrouvent au niveau de la loi des normes et qui se retrouvent aussi sur le marché du travail avec des emplois moins bien rémunérés, évidemment. Que les hommes en général, parce qu'on sait que les femmes se retrouvent souvent, puis on a entendu beaucoup dans le contexte de la pandémie, des femmes qui se retrouvent aussi dans le care, ce qu'on appelle tous les services publics, c'est-à-dire la santé, aussi la restauration, tout ce travail-là, qui souvent, quand on est monoparental, on peut se trouver un emploi dans un magasin, mais en même temps, on sait que là, dans le contexte actuel, c'est sûr que c'est exceptionnel, mais il reste quand même que c'est avec des horaires aussi qui sont atypiques. Souvent, les mères monoparentales se retrouvent dans des emplois où c'est difficile de concilier famille et travail aussi parce que le soir, les garderies ne sont pas nécessairement ouvertes. Donc, il faut aussi réussir à avoir un emploi parce qu'un emploi temps partiel, c'est pas nécessairement super payant. Donc, c'est sûr qu'il y a des allocations familiales, il y a du soutien qui est donné par le gouvernement, mais c'est quand même très insuffisant parce que les taxes augmentent. Il y a aussi le chauffage, il y a aussi l'Hydro-Québec. Donc, ça fait en sorte, comme vous dites, les salaires, effectivement, n'augmentent pas. Puis le salaire minimum n'est pas rendu à 15 $ de l'heure. Là, on mm-hmm. est à 13 $ de l'heure. Donc, ça va vite que quand tu gagnes 25 ou 30 000 $ par année aujourd'hui, là, c'est pas beaucoup là, pour faire vivre une famille.
Oui, effectivement. Et est-ce que les conjoints sont plus ou moins participatifs qu'ils étaient à l'époque?
Ben c'est sûr que on voit de plus en plus, comme je disais tantôt, de gardes partagées, c'est-à-dire que comme les couples se séparent, vous savez, au Québec, c'est majoritairement des conjoints et des conjoints de fait, donc les gens se marient pas, donc ce qui fait que les couples se séparent de plus en plus tôt. Donc c'est sûr que oui, il y a des pères, quand il y a des séparations, il y a des gardes partagées, mais c'est sûr qu'en même temps, quand on se sépare, il faut quand même trouver un deux logements. Oui. Donc ça aussi, ça implique à ce moment-là des coûts supplémentaires, un déménagement, bon, etc. Mm-hmm. Donc on le sait aussi encore aujourd'hui, même s'il y a une plus grande égalité, ben il reste quand même que qui va rester à la maison quand les enfants sont jeunes, c'est encore majoritairement des femmes. Oui, donc, pendant tout ce temps-là, elles sont pas sur le marché du travail. Donc, quand elles veulent retourner sur le marché du travail, ben là, à ce moment-là, des fois, il y a un écart qui s'est créé, dépendamment du type d'emploi que tu as. Donc, ce qui fait que quand il y a une séparation, ben nécessairement, il y a de l'appauvrissement. Fait que c'est sûr que si le conjoint, lui, pendant ce temps-là, a pu continuer à travailler, ben il a pu quand même réussir à quand même à mieux s'en sortir. Donc, ce qui fait que oui, il y a des allocations familiales. Heureusement, au Québec, il y a quand même du soutien à ce niveau-là. Mm-hmm. Sauf que, comme je dis, oui, il y a des pères de plus en plus qui s'impliquent, mais en même temps, financièrement, ça donne pas nécessairement. Il y a des pensions alimentaires pour enfants, mais ça donne pas nécessairement à la mère l'argent supplémentaire. Là.
Ouais. Et j'imagine que le télétravail avec la pandémie et la crise présentement, ça doit être terrible encore, plus pour les femmes
avec les
enfants à la maison.
C'est sûr qu'en même temps, on peut dire, bon, l'avantage, c'est qu'on n'a pas à sortir, on n'a pas besoin de courir, parce qu'on sait que les parents aujourd'hui, hein, le monde moderne, ça court, puis bon, on est pogné dans le transport, etc. C'est sûr que ça réduit ce stress-là, mais en même temps, effectivement, quand on a des jeunes enfants, dépendamment de l'ouverture des employeurs aussi, souvent, on sait qu'on a des doubles et des triples chiffres, les femmes, c'est-à-dire que le jour, on s'occupe des enfants, bon, le soir, quand ils sont couchés, ben là, on peut travailler plus tranquille, mais vous savez, quand on est jeunes enfants, là, faire du télétravail en même temps qu'on travaille sur l'ordinateur, que l'enfant a besoin de manger, etc. Puis quand on est tout seul, ben on peut pas nécessairement donner l'enfant à son conjoint pour s'en occupe en attendant. Donc déjà, les familles, on a vu dans le cadre de la pandémie, les familles qui sont, c'est-à-dire avec un couple avec des enfants, c'est déjà pas évident.
Oui.
On a vu qu'il y a beaucoup d'épuisement et tout ça. Fait que quand on est tout seul, ben c'est encore plus c'est quasiment héroïque là, de leur part de réussir à s'en sortir. Parce qu'il y a beaucoup aussi de détresse puis de détresse psychologique qu'on a vu aussi dans la pandémie.
Ah oui,
là.
Absolument.
Fait que c'est sûr que quand on a un emploi, mettons, très bien rémunéré, syndiqué, avec des avantages sociaux, ben c'est sûr que ça aide. Parce que la loi des normes, elle permet pas. Oui, il y a des congés, deux congés pour maladie. Dit, mais pour des responsabilités familiales, si tu as un petit job puis que tu perds ton emploi, ben tu n'as pas de congé. Alors, c'est des gens qui sont à bas revenus, hein, c'est ce qu'on parle. Donc, c'est souvent ces gens-là qui sont plus mal pris que l'ensemble des autres. Là.
Absolument. Et est-ce que, donc, vous avez remarqué que l'appauvrissement chez les femmes est peut-être, le fossé est peut-être moins creux qu'il l'était à l'époque, justement parce que les femmes sont plus scolarisées?
Oui, mais en même temps, le fossé, c'est qu'il reste que pendant ce temps-là, les autres aussi ont monté. C'est-à-dire, vous savez que les emplois traditionnellement masculins sont quand même plus payants, hein, qu'en général, dans la construction, etc., dans l'infrastructure. Donc, c'est sûr, je dis pas qu'il n'y a pas de femmes qui s'en vont dans ce domaine-là, mais il reste encore qui sont encore très minoritaires. J'ai vu un reportage récemment, les pompières, il y en a à peu près huit, je pense, au Québec, qui sont pompières, qui font des jobs quand même qui peuvent être intéressantes, sauf que c'est quand même difficile. Fait que ça aussi, je pense qu'on a encore du travail à faire à ce niveau-là pour même si elles vont à l'université, parce que les filles, effectivement, sont de plus en plus majoritaires dans les universités, mais il reste que quand on a des enfants, on dirait que là, il reste quand même que pendant toute cette période-là qu'on reste avec l'enfant, il y a une période d'appauvrissement parce que pendant ce temps-là, on n'a pas d'emploi. Donc, il reste quand même qu'il y a encore un fossé qui se creuse parce que pendant ce temps-là, les autres peuvent augmenter. Tu sais, pendant que le père ou le gars, lui, continue le travail, ben lui continue à monter dans l'échelle, alors que les femmes... Donc, dans les statistiques, c'est quand même démontré actuellement que, oui, il y a à peu près 30 % des femmes qui gagnent plus cher que les hommes, mais c'est encore minoritaire.
Oui, c'est encore peu.
Et il reste quand même que c'est encore les femmes qui restent à la maison puis que pendant tout ce temps-là, ben elles ne peuvent pas faire avancer leur carrière. Là.
Oui, bien sûr. En terminant, est-ce que vous avez des pistes de solutions ou des conseils? Qu'est-ce que vous offrez aux familles qui vous consultent?
Ben nous, en fait, le travail qu'on fait, c'est qu'on accompagne c'est beaucoup nos groupes qui sont sur le terrain qui accompagnent les mères et les pères dans la situation de la rupture et de la séparation. Et aussi, nous, on travaille beaucoup aussi pour faire avancer les législations, les améliorations aussi au niveau du gouvernement, soit fédéral, provincial. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on a beaucoup travaillé, nous, par exemple, à faire avancer la perception automatique des pensions alimentaires pour enfants, d'avoir des soutiens financiers aussi auprès de pour que le gouvernement donne davantage d'allocations familiales aux familles qui en ont plus de besoins, du logement social aussi, parce que le logement, on en parle beaucoup, mais en même temps, on voit que c'est de plus en plus difficile de se loger aussi quand on est tout seul avec des enfants. Donc, ça coûte de plus en plus cher. C'est une bonne partie qui prend ton revenu. Donc, c'est tous des dossiers à lesquels nous, on interpelle les gouvernements aussi là-dessus pour tenir compte de ces réalités-là, puis de dire, ben il faut soutenir davantage ces familles-là, parce qu'éventuellement, c'est des payeurs de taxes.
Oui, bien sûr. Ah oui, d'abord et avant tout. Hein?
Oui, parce que quand on va à l'école et tout ça, éventuellement, ben ça fait en sorte qu'on va être moins dans la pauvreté, puis on va pouvoir aussi participer à la société. Oui. Donc, c'est positif dans ce sens-là. C'est un investissement à long terme.
Bien, je vous remercie beaucoup, Sylvie Lévesque, d'avoir pris ce temps pour nous expliquer, en fait, comment fonctionne. Donc, je rappelle que vous êtes directrice générale de la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec. Merci beaucoup, Mme Lévesque.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. Mitsuko, femme d'affaires, qui nous mène à notre prochaine invitée, Caroline Lalande, qui est auteure du coffret de cartes pour améliorer ses finances personnelles publiées aux Éditions de l'Homme et également directrice présidente de Mosaïque, un cabinet de financement. C'est ça, Caroline?
De services financiers.
De services financiers, bien sûr. Non, oui, parce que tu ne prêtes pas de l'argent.
Non! Bonjour, Marc.
Bonjour. Caroline, écoute, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on a entendu de la part de Mme Lévesque concernant les familles monoparentales et reconstituées?
Bien, je trouve ça très intéressant parce qu'on oublie souvent qu'on ne s'enrichit pas en se séparant. Et on voit beaucoup de séparations autour de nous. C'est commun pour beaucoup de gens au Québec. Par contre, tout le stress financier, toute la finance qui entoure une séparation, On en parle très peu et c'est important de savoir qu'il y a des organismes comme ça qui existent. C'est important de savoir ce qu'ils font pour nous, puis il faut les connaître. Puis moi, je trouve ça extraordinaire ce qu'ils font.
Et qu'est-ce que, de votre côté, qu'est-ce que vous avez remarqué des changements dans les dernières décennies? Parce que quand même, on part de loin financièrement, les femmes.
Oui, bien, je pense que souvent, c'est en regardant notre histoire qu'on comprend notre présent. Historiquement, c'est sûr qu'on avait des familles traditionnelles. Hein? L'homme travaillait à la maison, il avait son épouse, la femme, qui restait, elle, à la maison. Ce qu'on a peut-être tendance à oublier, c'est que souvent la femme, c'est elle qui détenait les cordons de la bourse. Mm-hmm. Donc, elle avait quand même un certain contrôle sur toute la dépense, mais c'était l'homme qui allait gagner le pain. Aujourd'hui, on a changé complètement. Le mariage très rare de nos jours, malgré qu'on dirait qu'il y a une tendance à revenir de plus en plus vers le mariage. Mm-hmm. Mais on a arrêté de se marier à un certain point. On se dit, les femmes, on veut être indépendantes et tout. Et puis, c'est très bien. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on a détruit certaines façons de faire. Et là, on est en transition. Puis moi, je considère qu'on est encore en transition. Donc, des fois, c'est houleux. Des périodes transitoires, c'est souvent houleux. Donc, on est parti d'un temps où le mariage offrait certaines protections aux familles. Mm-hmm. La femme était protégée par le mariage. Aujourd'hui, on vit en union de fait. Ce qui rend les choses très différentes au sens de la loi. Et lors d'une séparation, mais s'il n'y a rien qui a été prévu pour protéger la femme et que celle-ci a mis sa carrière en veille pour les enfants, etc., mais elle peut se retrouver un petit peu sans le sou, là, pas à la rue, mais presque.
D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui se sont appauvries ainsi, c'est-à-dire que l'homme gagnait quand même bien, on parle de 100 000 et plus, et puis finalement, il laisse madame, et madame reste avec les enfants, et le train de vie qui change, c'est-à-dire les enfants ne peuvent plus aller à l'école privée, et bon, et donc tout, ça change la structure familiale et la vie quotidienne de tout le monde.
Oui, tout à fait, puis souvent, on va souvent parler des familles plus pauvres, si on veut, ou sous le seuil de la pauvreté. Mais on oublie parfois le stress financier de la famille, de ce que j'appelle la classe moyenne élevée. Donc, une famille qui gagne 100, 120, 140. Et puis, à ce moment-là, du jour au lendemain, il y a une séparation. Si c'était monsieur qui gagnait le principal salaire, madame se retrouve sans le sou. Et non seulement elle se retrouve sans le sou, mais elle doit s'adapter à un rythme de vie qui est beaucoup moindre que ce qu'elle avait. Mm-hmm. Donc, si les enfants, comme vous dites, allaient à l'école privée ou quoi que ce soit, mais là, on se retrouve dans des situations de dire, mais on est désolé, on ne peut plus vous l'offrir. Donc, on change, on déracine complètement nos enfants, on se déracine soi-même. Et ça, ça crée des stress et des angoisses terribles.
Et c'est vrai que s'habituer à un autre mode de vie, c'est pas évident quand on est habitué de rouler avec un salaire, de rouler avec une... Comment je pourrais dire, c'est toute notre qualité de vie qu'il faut revoir après ça. Puis c'est peut-être à ce moment-là qu'on se sent pauvre.
Oui, ben oui. Puis c'est drôle que vous parliez de ça parce que moi, j'ai une définition de la pauvreté qui n'est peut-être pas celle de tout le monde. C'est-à-dire qu'à travers le temps, à travers les clients que j'ai rencontrés, ce que je me rends compte, c'est que la pauvreté n'est pas reliée à un salaire. Donc pour moi, la pauvreté, c'est les gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. C'est-à-dire que s'il en gagne 100 000, mais qu'il en dépasse 110, qu'il en dépense, excusez-moi, 110, c'est inévitable qu'on va arriver à un mur. Mm-hmm. Alors, j'ai des clients, par exemple, qui gagnent 25-30 000, mères monoparentales, mais qui ont un rythme de vie modeste et qui sont contentes, je vous dirais, avec ce rythme de vie-là et qui se trouvent privilégiées d'avoir la vie qu'ils ont. Mm-hmm. Alors que j'ai d'autres clients qui gagnent des 100, 120, 150 000 et qui sont toujours à la recherche de plus et puis dépensent toujours plus. Et c'est inévitable qu'à un moment donné, la faillite peut venir cogner à la porte. Mm-hmm. Et à ce moment-là, ces gens-là, ben, comme on dit en bon québécois, vont prendre toute qu'une débarque. Mm-hmm. Donc ça, pour moi, c'est ça la vraie pauvreté. C'est quand on n'a plus le contrôle de nos finances, quand on dépense plus que ce qu'on gagne.
Oui.
Mais c'est inévitable qu'on va finir par trébucher, tomber et se faire mal.
Caroline Lalonde, pourquoi parler d'argent, c'est un tabou? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est au sein des disputes? Il y a même des familles qui n'en parlent pas. Pourquoi?
Je pense qu'il y a plusieurs pistes de solutions à ça, ou du moins, il y a plusieurs raisons à ça. La première des choses, au Québec, je pense que c'est tabou. Et je pense que l'argent, à la base, pourquoi c'est si tabou, c'est parce que c'est une question d'éducation. Ça ne fait pas partie de notre éducation. On a vu une tendance au niveau des gouvernements de ramener l'argent dans le sujet dans les écoles. Je pense que c'est important parce que plus on en parle, plus on est à l'aise. Donc ça, je pense que c'est à la base du tabou. Ensuite, l'argent et les femmes, c'est tout un autre tabou. Parce qu'avant, la femme gérait peut-être la bourse, mais elle le faisait silencieusement.
Oui.
Donc aujourd'hui, c'est tout autre. On a tout changé nos façons de faire. Et là, on persiste avec certains tabous. Et puis, au final, on ne sait plus trop là, comment gérer ça. Donc, c'est pas facile.
Avez-vous l'impression que nous, les femmes, on a tendance à se valoriser, à s'accorder ou non une valeur en rapport avec le salaire qu'on gagne? C'est-à-dire qu'on pense qu'on vaut plus parce qu'on fait un gros salaire puis qu'on se dit, tiens, on a réussi, on est bonne, on est capable de dépenser, versus, bon, on a un salaire plus modeste et puis on se sent avoir moins de valeur.
Oui, je pense sincèrement que le montant qu'on ramène à la maison influence comment on se sent par rapport à la contribution de la famille. Je pense que cela a un impact direct. Il y a aussi une drôle de dualité. C'est comme si, par exemple, la femme qui gagne beaucoup d'argent peut se sentir coupable d'en gagner tant parce qu'on se pose toujours la question, est-ce que je le fais au détriment de quelque chose? Est-ce que je le fais au détriment de ma famille? Donc, il y a toujours cette question-là qui ressort. Alors, c'est difficile pour une femme parce que si on n'amène pas de l'eau au moulin, mais des fois, on peut se sentir moindre. Le conjoint aussi peut avoir des fois des commentaires désobligeants à cet égard-là. Ça arrive. Donc, on se sent rabaissé parce qu'on amène moins d'argent au moulin.
Mm-hmm.
Et puis, quand on en amène plus, ben à ce moment-là, on peut se sentir rabaissé parce que peut-être qu'on ne contribue pas dans cette espèce de rôle traditionnel de la mère qu'on a puis qui est encore tellement ancré en nous. Donc, on a de la difficulté à s'en sortir.
Moi, j'aime bien la notion de culpabilité, puis j'aimerais qu'on y revienne en deuxième partie d'émission. J'aimerais partager quelque chose de qui m'avait vraiment frappée. C'était une émission avec Jeannette Bertrand qui parlait, je pense que c'était l'autre midi à la table d'à côté, et elle parlait avec une autre invitée, et elle disait, tu sais, nous, les femmes, on n'a pas le droit de dire qu'on a de l'argent. Puis elle dit, moi, ben j'ai de l'argent, mais tout ce que j'ai gagné, chaque sou, je l'ai gagné avec mon talent, avec mes compétences. Et pourquoi nous, les femmes, on n'a pas le droit de faire de l'argent, on n'a pas le droit d'être riche, on n'a pas le droit. Et ça m'avait frappée. Et j'aimerais qu'on aborde ça en deuxième partie d'émission. Merci beaucoup, Caroline. Reste
à
avec nous. Vous êtes toujours à Canalem, vous écoutez Terre de femmes avec Marthe Saint-Laurent. Vous aimez nos émissions? Vous pouvez les écouter sur le site de Canalem, sur vuesetvoix.com, sur marthesaintlaurent.com et en balado-diffusion.
Madame Bertrand, je suis un jeune veuf de 54 ans, catholique et bon pratiquant. Dans mon tourment, je cherche une maman pour mes enfants. Claude et Armand, âgés d'onze et 12 ans.
Madame Bertrand, je suis une brunette de 45 ans. Un peu grassette, j'adore les enfants. J'aimerais bien connaître un veuf ou un célibataire. Distingué avec des bonnes manières.
Madame Bertrand,
main dans la main, nous marcherons.
Avril, mai, nous saurons nous aimer.
Madame Bertrand,
juin, juillet, août, nous irons tout partout.
Madame Bertrand,
reste l'année,
nous resterons couchés.
Madame Bertrand,
je suis parfait bilingue, j'aime le bowling, les
les bons programmes, la danse et le cinéma. J'ai un bon salaire, j'ai des économies ainsi qu'une auto claire. Aventurière, prière de s'abstenir.
Juillet, où nous irons tout partout.
Il reste la nuit, nous resterons couchés. Madame Bertrand, humblement je me considère honnête, propre, fidèle, compréhensif, sobre, affectueux, sentimental, délicat, respectueux, sincère, travailleur, avenant, poli, galant. Je ne suis pas grand.
Nous sommes en compagnie toujours de Caroline Lalande, auteure et présidente de Mosaïque. Alors, on s'était laissé à la première partie, Caroline, en parlant de Madame Bertrand, Jeannette de son prénom, qui disait que c'est vrai que nous, les femmes, on a de la difficulté à dire, ou en tout cas, on se sent coupable d'avoir de l'argent. C'est pas bon, c'est pas beau, c'est pas avouable de dire qu'on est à l'aise financièrement, qu'on n'a pas de problème financier.
Oui, il y a vraiment un réel tabou. La femme qui gagne très, très bien sa vie, c'est très difficile à porter. Je pense premièrement qu'on est comme société un peu dans le jugement. Donc, on est encore ancré sur...
Un peu beaucoup, moi, je pense.
Oui, j'essayais d'être polie.
On reste polie, mais c'est la vérité. Donc, on juge beaucoup.
Oui, donc on reste ancré avec des vieilles valeurs et tout. Et la femme qui gagne bien sa vie, mais automatiquement, de façon spontanée, quand on voit une femme qui réussit très bien financièrement, la première pensée généralement qui nous vient à l'esprit, c'est elle ne doit pas avoir d'enfants. Oui, elle ne doit pas faire les devoirs avec ses enfants. Mm-hmm. Elle doit avoir une nanny.
Oui.
Elle ne doit pas être présente pour son mari.
Mm-hmm.
Ça ne doit pas être une très bonne cuisinière. Donc,
oui.
On a spontanément ces phrases-là qui nous viennent en tête, qui sont du pur jugement.
Et si elle a réussi, c'est parce qu'elle a négligé le reste de sa vie.
Exact. Donc, mm-hmm. Est-ce que... alors
On pense pas à ça des hommes.
Non, c'est ça. Alors, un homme qui réussit bien, on dit « wow, il a bien réussi
mm-hmm. ».
On se dit pas « il a réussi au détriment de... »
Sa vie familiale, sa vie amoureuse. Non, c'est vrai qu'on dit pas ça.
Exact. Donc, la femme doit porter ce fardeau-là. Et je pense que c'est extraordinaire qu'une femme comme Madame Bertrand le dise haut et fort,
mm-hmm.
parce que c'est un poids qui est très lourd à porter. Si on prend comme exemple une femme d'affaires qui décide de ne pas avoir d'enfant,
mm-hmm.
on va aussitôt assumer qu'elle n'a pas eu d'enfant à cause de sa carrière.
Oui.
Mais peut-être que c'était un choix.
Mm-hmm.
Peut-être que ce n'était pas à cause d'eux. Mais on a le droit de ne pas vouloir d'enfant. On a le droit d'avoir des carrières. Et on a aussi le droit d'avoir une carrière en ayant des enfants. Mais souvent, on est le premier juge envers soi-même,
mm-hmm.
qu'on est difficile envers soi.
Oui.
Moi, je me souviens des soirs où je travaillais. Il y a des périodes en service financier, évidemment, où on travaille
Mais
beaucoup
oui.
les soirs. Et je me souviens, mon fils, à un moment donné, je partais, puis il me dit, « Maman, tu t'en vas encore?
Mm. »
Et là, je suis rentrée dans mon auto, presque la larme à l'œil, en me disant, « Mauvaise mère, mauvaise mère, mauvaise mère.
Mm-hmm. »
Puis finalement, j'ai dû me parler, puis me dire, « Non,
mm-hmm.
non, mes enfants sont privilégiés. J'ai la chance, évidemment, d'avoir un conjoint extraordinaire aussi, je dois l'admettre. Mais mes enfants sont privilégiés dans tout ce que je peux leur offrir. Et mon travail fait aussi que j'ai le loisir d'aller voir le petit concert de flûte un mardi après-midi parce que je peux décider de bloquer mon agenda.
Mm-hmm.
Donc, je me dis, faut faire attention, faut pas se juger à outrance, c'est dangereux.
Et culpabilité, et il y a aussi le don de soi, je trouve, que nous avons, puis que, qui est bien, qui est tout en notre honneur, mais aussi que... qui nous empêche, c'est comme une espèce de boulet. C'est-à-dire, souvent, entre femmes, on ne s'aide pas nécessairement parce qu'on se fait beaucoup de bénévolat puis de pro bono.
Mm-hmm.
Donc, on a des expertises et là, il y a une amie qui nous demande et puis on ne charge pas parce que c'est une amie ou bien on lui fait un prix parce qu'on connaît. Puis à un moment donné, c'est comme nous, entre femmes, on n'est pas consciente parce qu'on est dans le désir de vouloir aider, mais on s'appauvrit en ne chargeant pas, en ne payant pas. Puis on charge pas parce que l'autre a beaucoup d'argent. On est un peu comme, je pourrais dire...
pris dans cet engrenage-là.
Oui, pris dans cet engrenage-là. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, tout à fait. Mais la première grande question, c'est quelle est la valeur de mon temps?
Bon, ça, c'est un autre truc. On a de la difficulté à s'accorder de la valeur.
Comment est-ce qu'on peut exiger d'être bien rémunéré pour son temps si nous-mêmes, on ne connaît pas la valeur de notre temps?
Mm-hmm.
Et ça, pour une femme, c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'on en donne du temps de façon naturelle.
Oui.
Je vous donne un exemple. Un chef cuisinier, c'est probablement son taux horaire.
Mm-hmm.
Madame qui cuisine...
Oui.
Elle, son temps n'a comme pas de valeur.
Mm-hmm.
Quand on regarde ça froidement, on se dit, ben, c'est... oui, c'est comme ça, mais en même temps, c'est un exemple qui est grossi, mais pour démontrer un peu l'objet. Et donc, quand on développe, par exemple, une entreprise, on doit estimer la valeur de notre temps, on doit déterminer et on doit après se faire respecter.
Mm-hmm.
Je vais vous donner un exemple rapide. Si moi, j'ai un ami qui est avocat, un homme avocat, et que j'ai des conseils à lui demander.
Mm-hmm.
Je vais probablement lui demander 45 secondes de conseils pour ensuite me faire dire que je devrais le consulter à X dollars de l'heure.
Oui.
Si ce même avocat est une femme,
mm-hmm.
c'est mon ami, mais je vais me permettre probablement 5 minutes.
Oui.
Et c'est ça qui est particulier. Mm-hmm. C'est ça qu'on doit changer.
Oui.
Et le changement provient de nous à la base.
Tout à fait. Dites-moi, vous êtes dans le domaine des finances, ça fait quand même un bon moment. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes?
Aha!
La question...
Il y en a de plus en plus, mais ça reste vraiment un domaine d'hommes.
Mm-hmm.
Oui, c'est très difficile.
Et comment vous expliquez ça?
Bien, je pense qu'à la base, le sujet des finances, c'est un sujet qui est plus d'hommes, ou du moins qui auparavant était plus un sujet masculin. De plus en plus, on voit des femmes entrer dans le domaine, mais encore là, c'est difficile. Un peu comme l'exemple que je vous mentionnais, il y a des fois du travail de soir, etc., des horaires atypiques.
Oui.
Donc, quand on veut bien s'occuper de sa famille, puis qu'on a des horaires atypiques, déjà, on a une dualité qui se présente.
Mm-hmm.
Donc, en service financier, beaucoup d'hommes. Et pourquoi aussi beaucoup d'hommes? Je pense parce qu'on gère le sujet, on le traite en hommes.
Mm-hmm.
Quand je vais dans des congrès, ce sont tous des hommes, ou du moins en grande partie des hommes, les discussions, les blagues qui se font, etc., qui souvent sont déplacées, sexistes, inappropriées, mais bon, tout le monde rit. Alors nous, comme femmes, ben, on sourit pour être poli, mais on se dit, bon, on aurait passé celle-là.
Oui.
Donc, ça reste des milieux qui sont durs pour une femme.
Mm-hmm.
Mais là, ce qui est particulier, puisque c'est extraordinaire, c'est qu'on voit vraiment un changement.
Ah, c'est extraordinaire, oui.
Oui, et le changement provient des compagnies, ce qui est surprenant. Donc, on voit de plus en plus des congrès pour les femmes. On voit des formations pour les femmes. Puis, il y a même des formations pour les hommes qui sont comment gérer les clientes qui sont des femmes. Parce qu'on se rend compte qu'étant donné que la femme maintenant se retrouve sur le marché du travail et que la femme aussi statistiquement vit plus longtemps que l'homme, bien, il va avoir des grosses sommes qui vont être disponibles entre ses mains. Alors, comment on gère une femme quand on lui parle de finances? On le fait pas de la même façon qu'on parle à un homme.
Et comment on le fait? Rapidement, comment on le fait?
Bien, je pense que de base, tout dépend évidemment à qui on s'adresse, parce qu'il y a des femmes qui ont plus peut-être des mentalités un peu plus masculines. Mm-hmm. Mais généralement, quand on parle de finances avec une femme, on va parler de projets, on va parler de valeurs. On est beaucoup plus dans l'imagé, dans le rêve, alors qu'avec l'homme, on reste vraiment dans le rationnel et les chiffres. Donc, c'est assez particulier.
Donc, on y va plus avec au niveau émotionnel.
Oui.
Avec les femmes.
Oui. On va parler, si par exemple on parle d'épargne-études avec un homme, on va dire que le gouvernement donne par exemple 30% pour les études. Alors qu'avec une femme, on va parler de bonifier le montant pour offrir de meilleures études à ses enfants. Donc, c'est exactement le même.
On l'enrobe autrement.
Oui, c'est ça. Donc, c'est exactement le même résultat. Mais les mots qu'on utilise pour y parvenir ne sont pas les mêmes et c'est ce qui fait toute la différence.
Est-ce que vous faites la même chose, vous, avec vos clients?
Oui, évidemment, j'adapte toujours mon discours parce que moi, je considère que le plus grand de mon travail est c'est d'éduquer, donc de donner l'information, puis ensuite, c'est d'être capable de m'adapter pour répondre aux besoins. Et c'est là, je pense, qui fait toute la différence d'un bon conseiller, c'est d'être en mesure de s'adapter. Et donc, si je suis en face d'une personne qui a très peu d'éducation financière, mais je dois partir à la base, puis je ne vais pas lui parler avec mes grands termes, etc. Mm-hmm. Et au contraire, si je suis devant une femme d'affaires aguerrie qui est habituée de gérer puis de parler de rendement, etc., bien là, évidemment, on va avoir un discours tout autre. Mais c'est la capacité de s'adapter et je crois que la femme est excellente à s'adapter.
Et puis, il n'y a pas seulement des femmes qui sont des professionnelles ou des gestionnaires qui font appel à vous. Il y a des femmes aussi qui ont des salaires modestes, qui veulent aussi faire des placements et tout ça.
Oui, tout à fait. Mais en fait, dans les secteurs d'affaires que je fais, j'ai développé une spécialité dans le régime enregistré d'épargne invalidité, qui est un programme pour les personnes handicapées. Mm-hmm. Et donc, je ne vous le cacherai pas, il y a une grosse portion de la clientèle avec qui je fais affaire pour le RI, ça s'appelle le RI, qui sont, par exemple, des familles monoparentales, par exemple, qui ont eu un enfant autiste puis qui se retrouvent du jour au lendemain monoparentales parce que monsieur trouvait ça vraiment trop difficile, mm-hmm. parce qu'elles ont un enfant à besoin, ne peuvent pas travailler, etc. Donc, oui, c'est vraiment une clientèle avec qui je travaille. Puis, je trouve ça toujours extraordinaire parce que, moi, j'aime voir le beau chez les gens. Puis peu importe la situation, c'est quand on voit l'évolution que je trouve ça merveilleux. C'est ce qui fait que mes journées sont belles.
Bien, restez avec nous, Caroline Lalande. On continue tout de suite après Rise. Nous écoutons Dominique Fils-Aimé. Mama, 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 ma Thank you.
told a dirty lie. Told you I ain't been to Georgia. And the eagle on the dollar, unlike the eagle on the dollar, you don't live in a misery, bird. You done living in misery. You done living in misery, bird. When you rise,
mama, 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 rise, mama, 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 mama.
Toujours en compagnie de Caroline Lalande, auteure du coffret de cartes pour améliorer ses finances personnelles publié aux Éditions de l'Homme. Alors Caroline, qu'est-ce que vous en diriez si on se tirait une carte?
Excellente idée!
Alors,
Marthe, je brasse les cartes et puis je vais vous demander d'en piger une.
D'accord. Ah, amour!
Aha.
Donc, on va aller voir ce que représente l'amour dans ce coffret. Bon, le texte est quand même assez long. Je vais y aller avec les deux derniers paragraphes. Donc, plutôt que de courir les boutiques en pensant à vos proches et de vous questionner sur ce qui pourrait bien leur plaire, prenez des moments de qualité avec eux, tout simplement. Démontrez votre intérêt en investissant votre temps et non pas votre argent à tout prix. Les meilleurs souvenirs, ceux qui survivent aux décennies, proviennent d'anecdotes rapportées et d'activités passées avec nos êtres chers et non d'objets ou de sujets. C'est écrit ce petit livre-là.
C'est une de mes cartes préférées, celle-là.
Mais c'est vrai qu'elle est belle parce qu'on sort de la matière. On va dans les émotions, dans l'importance de la vie.
Ah oui, puis moi, à travers le temps, ce que je remarque, c'est ça, c'est que les vrais souvenirs, là, ceux qui nous marquent, ce sont des événements, ce sont des fous rires, ce sont des situations abracadabrantes, des sorties qu'on a faites avec notre famille, mais pas nécessairement des choses qui nous ont coûté très cher.
Mm-hmm.
Maintenant que je vous entends le lire, là, je me souviens un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais quand je l'ai écrit. Et puis c'était ça, c'était la beauté de faire des activités qui ne coûtent rien.
Oui.
Et ça, on oublie. On vit dans un monde de surconsommation, on le dit toujours. Et on est toujours à la recherche de la prochaine activité qui est la plus in, qui est la plus intéressante, etc. On se retrouve à dépenser des fortunes, mais souvent, c'est ce qu'il y a de plus simple, qui est le plus plaisant, mm-hmm, et dont on se souvient le plus longtemps.
Et c'est vrai que malheureusement, notre rapport au bonheur est souvent et trop souvent relié à ce qu'on possède, au salaire qu'on fait, à l'argent qu'on a, à ce qu'on peut offrir. On pense que si on offre beaucoup à nos enfants, à notre conjoint, on va être plus aimé. Il y a combien de gens qui achètent justement l'amour?
Oui, puis ça ne devrait pas être, ou du moins c'est sûr que c'est toujours agréable de recevoir un petit quelque chose, mais est-ce là vraiment la base? Non. Mais c'est tellement difficile dans la société de nos jours de décrocher de tout ça. C'est extrêmement difficile. Je regarde juste, par exemple, je sais que je reviens souvent à mes enfants, mais moi c'est mon quotidien. Mes enfants veulent toujours le dernier cri électronique, etc., puis souvent, quand je leur dis non, ben au début, ils ont de la difficulté.
Mm-hmm.
Et puis, une des conversations que j'ai eues avec mon garçon de 13 ans cette semaine, justement, c'était à quel point, quand on travaillait pour notre argent, quand on avait la capacité d'accumuler, en fait, quand on finit par s'acheter quelque chose, c'est encore plus valorisant.
C'est vrai qu'on a le fameux 10 vitesses acheté en gardant des enfants à coût de 5 $ et 10 $ qui roulaient bien. C'est vrai.
Oui.
C'est vrai qu'on a une facilité à consommer qui nous fait perdre ce côté-là de l'attente. Oui. Et quand on ne peut pas se l'offrir rapidement, on a l'impression qu'on est pauvre.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Et je pense que le rapport à l'argent est très important. On a un rapport, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a un rapport biaisé face à l'argent. Ça devient pour nous le pouvoir. Le pouvoir d'acheter, le pouvoir d'exister, le pouvoir... qu'est-ce que vous pensez de ça?
Mais le rapport à l'argent, c'est quelque chose de très personnel. Par contre, en société, on voit que dans la société, oui, on associe l'argent au pouvoir. Alors que dans les faits, qu'est-ce que l'argent nous permet? Moi, ce que j'essaie d'enseigner, c'est que l'argent, ça nous offre une certaine liberté. Une liberté de faire certaines choses. Évidemment, si nos besoins essentiels ne sont pas comblés, c'est très difficile de pouvoir dire « je suis fondamentalement heureux mm-hmm. » parce qu'on doit manger pour être bien dans notre peau, c'est la base. Mais au-delà de ça, on vit quand même dans une société qui nous offre plusieurs filets. Quand nos besoins de base sont comblés, est-ce qu'on est toujours à la recherche de plus? Mm-hmm. Est-ce qu'on veut toujours plus pour... Puis la question est là, pourquoi?
Ouais.
Donc, vraiment, ça, c'est pour moi, c'est quelque chose de très important, c'est de dire que oui, l'argent, ça achète une certaine liberté. Si on a des sous, on a la liberté d'aller en voyage, par oui. exemple.
Mm-hmm.
Mais est-ce que le voyage est vraiment la définition du bonheur?
Non, sauf que ça détend. Hein.
Ça, oui.
ça détend, ça permet aussi de reposer notre cerveau puis de sortir de notre quotidien.
Oui. Donc,
sauf qu'on n'est pas obligé d'aller faire le tour de l'Europe chaque année, on s'entend sur ça.
Non, exact. Donc souvent, il faut, comme quand on a par exemple peut-être moins de liberté financière, hein,
oui.
À ce moment-là, il faut peut-être redéfinir comment on veut faire les choses. Donc est-ce que les vacances veulent nécessairement dire, par exemple, sauter dans l'avion puis aller à quelque part?
Oui.
Ou on peut tout simplement dire, bon, on prend des vacances à la maison,
mm-hmm.
puis on fait autre chose. Donc, il faut être créatif.
Oui.
Et ça, je pense que c'est la base. Mais de dire que l'argent, c'est le pouvoir, c'est ce que la société nous enseigne. Mais fondamentalement, je crois que l'argent nous permet certaines libertés, mais que c'est la créativité qui nous permet d'être heureux avec ce qu'on a.
Mais comment on fait quand on a vécu dans une certaine aisance et qu'après, pour des raisons ou pour d'autres, soit qu'on est que la maladie nous a frappés, soit que notre conjoint est décédé, soit qu'on a perdu notre emploi, ou bon, peu importe, que notre niveau de vie chute. Comment on fait pour traverser cette crise-là, pour dire... Écoute, j'ai encore de la valeur. Comment je fais pour payer mes trucs à la fin du mois? Tu sais, au début de l'émission, je disais, c'est le plus grand stress et la plus grande anxiété au début de chaque mois, mais c'est vrai. Comment on fait pour traverser ces périodes-là?
Mais c'est très difficile. C'est sûr que chaque personne a son taux de résilience propre. Donc, pour une personne, ça peut être plus facile qu'une autre. Par contre, il y a des statistiques. Hein. Si on regarde, par exemple, quand on est malade, c'est prouvé qu'on guérit plus rapidement si on n'a pas de troubles financiers. Donc, c'est donc dire...
Ça, c'est l'idéal.
Oui, mais c'est donc dire à quel point l'argent est important
mm-hmm.
pour la guérison, quelle qu'elle soit.
Oui.
Donc ça, évidemment, c'est des drames quand il arrive une chute comme ça de revenus puis qu'on doit ajuster notre vie. Ce sont des drames qui sont extrêmement difficiles et c'est là où tous les organismes autour de soi peuvent aider, notre entourage peut aider. Mais il faut jamais oublier la valeur,
mm-hmm.
la valeur qu'on a comme personne. Et ça, c'est la base, là, vraiment.
Et comment on fait pour s'accrocher à ça?
Ah, quelle question! C'est difficile, mais je pense que c'est de...
L'entourage, c'est d'essayer
peut-être? Oui, de rationaliser l'entourage.
De savoir qu'il n'y a rien qui est permanent.
Oui, puis je pense aussi, c'est d'apprendre à voir les choses une à une, donc d'apprécier les petites choses de la vie. C'est faux de croire que tout ce qui est intéressant, agréable... provient de quelque chose qu'on a payé ou qu'on a acheté.
Mm-hmm.
Donc, des fois, c'est de s'arrêter dans ce monde qui va à une vitesse fulgurante. C'est de s'arrêter aux petites choses.
Mm-hmm.
Et puis de regarder, puis de dire, ben, est-ce que ma situation est si catastrophique ou non?
Oui.
Et puis, une fois que la panique s'est calmée, ben à ce moment-là, on est plus capable de planifier. Et c'est souvent des discussions que j'ai, par exemple, avec mes clients quand ils sont en crise comme ça. Mais en fait, on va un petit peu briser, si on veut, la montagne en dans des petits morceaux. Puis on regarde morceau roche par roche, si on veut. Mm-hmm. Et après ça, on est capable de reconstruire le chemin où on doit aller.
Mais c'est très intéressant, Caroline Lalande. Merci infiniment. Donc, un immense merci à Caroline Lalande, présidente de Mosaïque et auteure du coffret de cartes pour améliorer ses finances personnelles. Et également à Sylvie Lévesque, directrice générale de la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec. Merci à l'équipe également. Cette équipe sans qui l'émission ne serait pas possible. Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier à la mise en onde et Louis Garon, chef d'antenne à Canalem. Un merci tout particulier à vous, vous qui nous écoutez d'une semaine à l'autre. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous partage cette citation de la comtesse de Ségur. La modeste et la douce bienveillance est une vertu qui donne plus d'amis que la richesse et plus de crédit que le pouvoir. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à la semaine prochaine.